Alors nous voici au kilomètre 252 depuis la source de la Seine qui est notre point de départ. Et à ce point géométrique du kilomètre 252, on voit devant nous la sombre façade classique du lycée Condorcet. Une façade qui paraît-il est due à Brognard, qui a été également l'architecte de la Bourse. Nous sommes donc derrière la gare Saint-Lazare, dans le quartier de la Chaussée-d'Antin, un peu à l'extrémité de ce quartier de l'Europe, qui a été celui de Caillebotte, le peintre, et celui d'Apollinaire, qui habitait rue de Naples. Dans ce lycée qui est en face de nous, ont enseigné des professeurs illustres, comme Émile Chartier, dit Alain, qui est grand professeur de philosophie du début du siècle, Jean Beaufray, plus récemment, qui a introduit Heidegger en France, et puis Édouard Daladier, qui a été le président du Conseil des accords de Munich et qui enseignait ici l'histoire en 1919. En 1944, mon père y a été l'élève d'un autre professeur de philosophie célèbre qui s'appelait Jean-Paul Sartre. Jean-Paul Sartre avait la réputation de ne pas du tout travailler et de consacrer ses heures de cours de philosophie à corriger les épreuves de son livre. Et c'est ainsi que la classe à laquelle mon père appartenait lui a fait en 1944 dédicacer les mouches par dérision. Et ce qui fait que maintenant ma bibliothèque s'enorgueillit d'un exemplaire des mouches avec cette dédicace de Sartre qui prête à rêver puisqu'il a simplement écrit « Assuro, souvenir de 1944 ». On se demande ce qu'ils avaient fabriqué ensemble en 1944. L'histoire oblige à dire que Sartre n'avait pas fait grand-chose en 1944. Si je me suis placé devant Condorcet, c'est pour vous parler d'Isabelle Adjani. Alors pourquoi Condorcet? Il y a plusieurs raisons, deux raisons. D'abord, comme je l'ai dit, c'est le quartier de mon enfance et c'est à la fin de cette enfance que je suis tombé amoureux de l'image animée d'Isabelle Adjani, exactement comme les esthètes dans Proust tombent amoureux d'un tableau, d'un portrait du 18e. Et mes sentiments à moi ont été plus violents à l'époque après avoir vu La Gifle, le film de Claude Pinoteau, qui m'a empêché de dormir pendant plusieurs jours. Dans La Gifle, et c'est la deuxième raison, son père, qui est joué par Lino Ventura, joue le rôle d'un proviseur du lycée ou un professeur du lycée Louis le Grand, mais que je ne sais pourquoi j'imaginais à Condorcet. Puis il y a une autre raison qui est une raison géométrique, c'est-à-dire que si on triangule le lycée de Courbevoie où elle a fait ses études, la Comédie Française où elle a fait ses débuts et les Buts de Chaumont où je rêve que Breton aurait pu aimer la voir apparaître. Et bien sûr, on triangule ces trois éléments, on tombe exactement ici devant le lycée Condorcet. Isabelle Adjani, c'est la déesse des Batignolles. Elle m'est apparue dans le Paris pluvieux des années 70. En 70, l'homme français était assez différent de l'homme français d'aujourd'hui. Il avait deux versions différentes. Il avait une version intellectuelle et une version instinctive. Du côté instinctif, Lino Ventura, dans La Gifle, donnant sa fameuse gifle, ou bien dans Le Silencieux, parcourant la France avec les espions soviétiques aux trousses, dans la figure du physicien Clément Thibert. Et puis de l'autre, l'homme français était intellectuel avec Guyotat à Cerisy, au moment des colloques de Cerisy, et Jacques Rivette dans Céline et Julie vont en bateau, Cinémathèque. Et il faut dire que à certains égards, les années 70 étaient tout aussi ridicules que les années actuelles. Le ridicule ne tuait pas plus en 1970 qu'aujourd'hui. Et c'est ainsi quand on regarde maintenant la bande-annonce de deux ou trois choses que je sais d'elle, on voit dénoncer l'inégale répartition des salles de bain dans la population et, je cite, « la Gestapo des structures ». C'était l'époque où les pères dominicains insultaient Simon Leys en Une du Monde. Simon Leys qui voyait Mao pour ce qu'il était, moitié Staline, moitié Uburois. Mais quand même, en 70, il y avait cette espèce de rêve de liberté, et puis un rêve aussi néo-spirituel, auquel concouraient les auteurs de musique folk de l'époque, Simon et Garfunkel, Yves Simon pour les Français, ou Leonard Cohen, par exemple. Et 70, ce sont surtout les débuts d'Isabelle Adjani. Isabelle Adjani, on lui a fait payer son destin, au fond. Elle est née en 55, c'est-à-dire 10 ans après la fin de la guerre, mais au début de la guerre d'Algérie. Elle est la fille d'un ancien tirailleur algérien et d'une Allemande, ce qui fait que pour les Français, elle porte le souvenir de deux défaites. Et c'est peut-être là qu'on peut trouver l'origine mystérieuse de la rumeur qui lui a attribué la maladie du sida dans les années 80. C'était au fond ma génération qui était née dans le souvenir de plusieurs hontes, la Wehrmacht sur les Champs-Élysées, la collaboration d'une large part de l'élite française, mais aussi la torture en Algérie. Et ce qui fait que les enfants de la génération Adjani, qui est la mienne, ont rêvé avec Mehdi, ils ont rêvé sur Mehdi, l'enfant réfractaire de Belle et Sébastien, qui s'en va dans la montagne pour racheter un honneur perdu. Et aussi avec ce Thierry Lafronde, qui assez curieusement présentait un maquis solognaux habité par des FTP médiévaux, ce qui était une représentation décalée mais assez incroyable des tourments que la France venait de connaître pendant l'occupation. Je me suis souvent demandé, longtemps, ce qui mettait Adjani à part, avant de comprendre qu'elle n'incarnait pas le sujet ou l'objet de l'amour, mais l'amour lui-même. Dans la plupart de ses films, elle est à la fois l'héroïne et le cœur antique. Et c'est cette étonnante capacité d'incarnation qui avait fait dire à François Truffaut « Je n'ai jamais senti un désir aussi impérieux de fixer un visage sur une pellicule. » Et d'où aujourd'hui cette formidable impression de solitude. Adjani a eu de grands partenaires masculins, mais elle ne laisse aucun souvenir de couple. L'héroïne qu'elle incarne dans l'amour, ça n'est pas la femme amoureuse, c'est la passion elle-même. Et c'est pour ça qu'elle a pris, au fond, sans trop changer, les poses, les masques, les habitudes des décennies qu'elle a traversées sans que rien n'altère sa puissance de représentation. Elle s'est prêtée à Truffaut, comme à Pinotto ou à Becker, mais sans jamais s'abandonner. Elle a été tour à tour la madone des chambrées dans L'été meurtrier, la femme de luxe découvrant le métro, comme Duras l'Indochine dans Subway dans les années 80. Elle est sortie des tableaux où l'on voit Charcot au milieu des hystériques de la Salpêtrière pour figurer à la fin dans une toile d'héros, puis présenter La journée de la jupe ou passer dans Capitaine Marlowe. Il subsiste en Isabelle Adjani quelque chose d'absolument inaltérable. Et peut-être au fond, son jeu, et c'est peut-être en cela qu'il me touche, remonte-t-il aux années 1920, quand le jeu du muet colore les premiers films où l'on commence à parler. D'où cette expressivité si particulière à Isabelle Adjani et qui la tient à égale distance des deux manières différentes de compter au cinéma. Soit l'identité à soi-même, comme Jouvet, comme Al Pacino, comme Tom Hanks, soit la métamorphose permanente, comme De Niro, comme Brando, comme Strip. À la voir, au fond, un film après l'autre, et sur cette corde raide qui est tendue entre les années, on pense à l'extraordinaire Anne Harding dans le Peter Ibbetson de Hathaway, où les surréalistes ont vu le triomphe de l'amour. Et c'est alors qu'on s'aperçoit que son nom est à peu de choses près l'anagramme de Nadja, l'héroïne d'André Breton. Là est l'essentiel peut-être d'Isabelle Adjani, pour moi en tout cas, dans cette capacité à hanter, et peu importe les films ratés auxquels elle a pu participer. Nadja consultait, on le voit dans le livre de Breton, Madame Sacco, voyante rue des Écoles, et Adjani consulte Yagel Didier. Mais elle relève autant de Nosferatu, le grand film muet de Murnau, des années 20 que les surréalistes ont adoré, que de Possession, le film dans lequel elle a tourné. Et ceux qui ont aimé Musidora, La Vampe de Judex, l'auraient aimé aussi. Musidora, de son vrai nom, s'appelait Jeanne Roch. Elle a épousé un cardiologue qui, lui, s'appelait Clément Marot, comme le poète, et elle a collaboré à la fin de sa vie à la Cinémathèque de Langlois. La barque de l'amour, disait Mayakovsky, s'est brisée contre la vie courante. Aujourd'hui, je me demande si Adjani, qui est notre étrangère, ne ressemble pas à cette France insaisissable que nous aurons aimée, poursuivant la chimère au péril de sa vie et au mépris de toute sagesse. Ainsi en va, n'est-ce pas, disait Breton, du monde extérieur. Cette histoire à dormir debout.